Cinérama.
Cette nuit, notre plastron émetteur a été saboté.
Bon, de toute façon, ce film est une catastrophe.
Espèce de sac à foutre.
Je t'aime.
Tu vas rôter du sang.
Cinérama.
Défense de rire et défense de pleurer.
Moi, ce qui me fait chier, c'est les effets spéciaux minables. Je supporte plus.
Je suis ton père.
Un très beau film.
Ça fait toujours plaisir à entendre.
On n'est rien à foutre, mais c'est un très beau film.
Je dois reconnaître que vous affirmez des choses plutôt incroyables et qui devraient être vérifiées.
Cinérama.
Bon, en piste, les louloutes.
Actualité cinéma et tout le reste sur Divergence FM.
Bonjour Marine.
Bonjour Vincent, bonjour à tous.
Et on va tout de suite dire bonjour à notre invité Frédéric Astruc.
Bonjour à vous.
Voilà, alors on est dans le petit studio. Moi j'ai l'impression de ne pas vous entendre, mais j'imagine que les auditeurs nous entendent.
Moi j'ai l'impression d'entendre beaucoup trop fort.
D'accord, superbe. Donc on va quand même faire cette émission qui va concerner plusieurs films. De quoi tu vas nous parler, Marine ?
Moi je vous parlerai de Après le Sud. Et nous aurons également une interview de Jean-François Bourgeot, le directeur du 33e Cinémède, qui commence à la fin de la semaine.
Voilà, donc important dans l'actualité, finalement, Montpellier-Rennes. Moi, je vous parlerai de police. Alors, il sera question aussi de revenir sur l'interview qu'on a diffusée la semaine dernière. Là, elle sera plus courte que celle de la semaine dernière. Et puis, je vous parlerai un peu de ce film. Nous ferons aussi un blind test autour des films français qui concernent les policiers ou la vie dans les commissariats, en tout cas qui s'intéressent au métier de policier. Et on va quand même commencer avec donc Plein Écran. Ce sera demain au Diagonale.
Cinérama sur Divergence FM.
Alexandre Astruc, vous êtes maître de... Frédéric Astruc, voilà, ça commence bien. Vous êtes maître de conférence à l'université de Montpellier 3. Vous êtes dans la section cinéma.
Absolument.
Et donc demain, vous serez au Diagonale pour présenter un film qui s'appelle La Chute, un film allemand. Alors, bien déjà, on va parler de Plein Écran. Enfin, de quoi s'agit-il ? Ce sera la deuxième édition.
C'est ça, donc c'est une saison 2, effectivement. Alors, c'est une programmation... donc assez éclectique, à destination à la fois des étudiants, des cinéphiles et j'allais dire plus largement donc du grand public. L'an dernier, nous avions projeté un film par mois, ça faisait beaucoup, bon, c'était évidemment très riche et très intéressant, mais on a décidé donc cette année de diminuer cette fréquence. Et donc il y a... pour cette programmation, donc un film tous les mois et demi environ. Mmh. Voilà, donc pour le film La Chute, il s'agit de la deuxième projection de cette programmation. Et puis, donc il y aura le jeudi 17 novembre, pour ne citer que ce film-là, Un jour au cirque d'Edouard Buzzel, donc un film avec les Marx Brothers, qui sera présenté donc par Christian Rollo. Alors le principe de cette programmation, en fait, c'est pas seulement de revoir... certains classiques du cinéma, qu'ils soient anciens ou récents, c'est aussi donc de les accompagner et d'essayer donc de poser quelques éléments d'analyse, quelques problématiques pour permettre donc aux spectateurs d'envisager le film peut-être autrement.
Alors, on va rentrer peut-être dans le vif du sujet. De quoi vous allez parler finalement demain autour de ce film La Chute ?
Alors La Chute, c'est un film qui a suscité de vives polémiques lorsqu'il est sorti en 2005. Donc il s'agit d'un film allemand qui se penche sur les derniers jours d'Adolf Hitler, les 12 derniers jours d'Adolf Hitler donc, dans son bunker. Donc assez peu de films, ont abordé le sujet. Donc là, il s'agit d'une tentative... que l'on peut qualifier d'honnête de la part donc des Allemands de représenter une part maudite de leur histoire. Voilà, alors après, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais...
Bon, on va pas tout dire, parce qu'effectivement, vous devez réserver quelques analyses pour demain, mais qu'est-ce qu'il y a finalement d'important à savoir sur ce film ? C'est-à-dire dans quelles conditions finalement et pourquoi ça a été si compliqué de faire un film autour des derniers jours d'Hitler ? Il y a eu deux tentatives auparavant, c'est ça, dans le cinéma allemand.
Alors, je crois que le premier problème, c'est celui de l'incarnation. Qui qui peut incarner Adolf Hitler. Donc là, il s'agit de Bruno Ganz, donc il fait une performance assez étonnante, il faut le dire. Bon, il s'est beaucoup documenté, il a beaucoup lu, il a rencontré certaines personnes donc, qui étaient des proches d'Hitler, enfin, en tout cas les survivants de cette époque. Donc cette incarnation est crédible. Mais évidemment, cela reste une incarnation. Nous n'avons pas évidemment sous les yeux Adolf Hitler. Du coup, j'allais dire que ça pose le problème de la distance. Est-ce que le réalisateur, finalement, pour faire ce film, est-ce qu'il l'a filmé à bonne distance ? Voilà, pour reprendre en fait la formulation de Serge Danet, lorsqu'il parle de la représentation de la Shoah, par exemple. Bon. Donc, voilà, c'est l'une des problématiques. Alors, je n'ai pas la prétention d'y répondre. Hein. Chaque spectateur, finalement, pourra s'inviter à le faire. Après, donc, il y a les événements historiques donc, qui ont secoué, qui ont ébranlé la ville de Berlin. Alors, on peut dire que de ce point de vue-là, le film est juste, voire très juste, 90%.
Oui, c'est environ. Déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Donc il a été loué en ce sens donc, par des historiens. Bon, il ne faut pas oublier qu'il est déjà tiré d'un livre d'historien. Bon, il y a quand même quelques écarts avec la réalité dont je parlerai demain.
Ouais. Mais alors ça, c'est pour le besoin de la fiction ou alors c'est pour quoi finalement ?
Ça, c'est vraiment difficile à dire. Je ne suis pas dans la peau d'Oliver Hirschbiegel, mais... il y a peut-être eu à certains moments des ondes d'ombre et pour combler ces ondes d'ombre, eh bien, il a fallu peut-être fictionnaliser ce qu'on ne savait pas. Et du coup, il s'avère donc, une fois le film terminé, qu'effectivement, certains aspects, je pense au suicide par exemple, certains suicides ne se sont pas déroulés véritablement comme on les voit dans le film. Entre autres choses. Oui. Mais on peut dire que malgré tout, cette tentative est sérieuse et honnête.
Alors, est-ce qu'on retrouve d'ailleurs la même difficulté hein, de l'adaptation ? Vous dites que c'est adapté donc d'un livre d'historien. Est-ce que le cinéma, finalement, c'est pas son plus gros défi, c'est-à-dire de passer à l'incarnation et de rendre les choses soit vraisemblables, soit distanciées, comme vous le dites ?
Enfin, avec un sujet pareil, c'est plus qu'un défi, effectivement. C'est presque incommensurable. Donc, le réalisateur, encore une fois, a des intentions qui sont nobles, a priori. Le problème, c'est qu'en filmant un personnage donc, comme Adolf Hitler, il va forcément engendrer donc, des phénomènes d'identification. Et c'est, j'allais dire, un peu l'effet pervers du film. C'est-à-dire qu'on s'identifie et on ne peut que s'identifier à Adolf Hitler. Non pas que l'on reconnaisse en lui quelqu'un de proche de nous, mais il n'en reste pas moins que c'est un homme. Mmh. Donc c'est vrai que ce film montre l'humanité du monstre, en quelque sorte. Bon. Ce dont on ne doutait pas, c'est bien que Hitler est un homme. Bon, avant tout. Alors, le bon côté des choses, j'allais dire que ça permet de se dire que ce n'était pas un extraterrestre non plus. Quoi. Voilà, que cet homme qui a commis des abominations est un homme. Voilà. Donc, de ce point de vue-là, c'est réussi. Par contre, c'est vrai que c'est un film qui laisse un goût amer, donc étant donné cette identification au personnage. Et on ne peut que, c'est le principe du dispositif filmique en fait, on ne peut que s'identifier à lui et j'allais dire à Goebbels, et etc. Donc c'est assez désagréable de ce point de vue-là.
Mmh. Bon, alors reste à savoir ce que Lars von Trier aurait pu en penser, hein, vu ses déclarations de Cannes. Voilà.
Un autre film était sorti dans la même période, il me semble, sur le même sujet, c'était Moloch. de Sokurov. Il traitait aussi des derniers jours de Hitler dans son bunker et pareil, amener plutôt les spectateurs à s'identifier justement. Montrer plutôt l'humanité de Hitler.
Oui, mais ça, j'allais dire que bon. Je ne sais pas si c'était indispensable. En fait, je crois que quand on fait ce type de film, on doit se poser la question de son utilité. Est-ce que, finalement, quel bénéfice retire-t-on de ce film ?
C'est-à-dire que les Allemands devraient plutôt faire des documentaires autour d'Hitler plus que des fictions ? Enfin, c'est ça, c'est la fiction
c'est,
vraiment que
c'est
vous
presque un documentaire, en fait, parce que quand on y réfléchit bien, c'est moins une reconstitution historique de l'époque qu'un véritable docu-fiction. À la manière de ceux que l'on peut voir sur Arte, par exemple. Et j'allais dire que la manière de filmer va dans ce sens. Hirschbegel, donc, utilise souvent des caméras portées. Il refuse le cinémascope, ce qui est très bien, évidemment, parce que ce serait devenu un film à grand spectacle. Donc, il ne fallait pas spectaculariser ces événements-là. De ce point de vue-là, c'est intéressant. Ce qui manque, en fait, c'est la dimension de l'analyse. Voilà. C'est-à-dire qu'il est fidèle aux faits, mais par contre, de mon point de vue, en tout cas, il n'a pas analysé les faits. Voilà. Et c'est ce qui manque, et c'est ce qu'on aurait peut-être dû trouver dans un long métrage cinéma portant sur ce sujet.
Voilà, donc bien, c'est demain, donc film du réalisateur Hirschbegel, c'est ça ?
Non,
Hirschbegel.
Oliver Hirschbegel.
Hirschbegel, voilà. Donc ça s'appelle La Chute. On pourrait même donner le titre en version originale si vous le connaissez.
Non, parce que malheureusement, je ne parle pas allemand.
Uterung, je crois, quelque chose comme ça.
Et c'est à 20h, donc au cinéma Diagonale.
Ce sera donc la deuxième séance de plein écran, et ce sera suivi par une troisième le jeudi 17 novembre à 20h, et d'autres encore tout au long de l'année.
En tout cas, merci Frédéric Astruc de vous être déplacé dans les studios de Divergence. On va vous faire jouer un peu, donc notre blind test qui arrive de temps en temps dans l'émission. Le cinéma américain fait la part belle aux flics, hein, sale gueule, faux gentil, justicier. Ils parviennent souvent à triompher de l'injustice et mettre une claque au réel. Posons-nous quelques instants sur les films français qui prennent pour thème principal le quotidien du policier. Et profitons-en surtout pour faire un blind test en aveugle. Donc on va commencer par du facile, voire du très facile, un film qui confronte, et ça n'est pas à nouveau un flic endurci, un petit jeune type fraîchement sorti de sa promo.
On n'apprend pas tout à l'école, mon vieux. Ça serait trop facile. Tu sais dégainer ?
À l'école, j'étais le meilleur, ouais.
Ah ben on va voir. Voilà, tiens. T'es prêt ? À trois ? Hein ? Un. Deux. Trois.
Et t'étais le meilleur.
Tu veux savoir pourquoi t'as mis une demi-seconde de plus que moi à écarter le pan de ta veste ? Parce que moi, je l'ai lesté avec du plomb. Tu vois, mon petit pote, si tu veux éviter d'avoir du plomb là-dedans, t'en mets là.
Alors, est-ce qu'il y a des réponses dans le studio ? Moi, j'avais dit que c'était facile, alors ça met un peu la pression, mais...
L'arme fatale ?
Non, film français. Donc, on entend en tout cas, vous avez reconnu les deux comédiens ?
Noiret et l'ermite.
Voilà, Noiret et l'ermite.
Donc, dans une comédie française.
Ouais.
Dont j'ai oublié le titre. J'ai
Les Ripoux.
Pourtant, le premier, voilà.
Voilà, film de Claude Zidi. Hein, tellement que le public a mordu à l'hameçon, des bons sentiments, qu'il y aura même un Ripoux 2 et un Ripoux 3, toujours aussi léger au final, qui nous renseigne peu sur le métier de flic, ou au moins avec beaucoup de stéréotypes. Alors, un des bons exemples d'immersion du cinéma dans la chose policière, l'enquête, la vie de commissariat, la hiérarchie des moyens qu'il faut et qu'ils n'ont pas, est donnée par un film de 1992.
Je te répète que c'est le parquet qui a égaré la procédure. Ils l'ont perdu, t'entends, perdu. Moi, j'y suis pour rien. J'ai encore notre exemplaire, tout y est, les PV et tout.
Mais enfin, c'est dément. On fait des mecs avec 65 grammes, des fonds papiers, des cartes de crédit volées et utilisées, de plus interdits de territoire, on les met dehors comme ça.
Sans procédure, le parquet doit les relâcher. Moi, j'y suis pour rien, hein. J'ai rien à me reprocher, la boulette, c'est pas moi qui l'ai faite.
Non mais laisse tomber Vincent, il a raison. Par contre, une boulette, il en a fait une autre, une belle.
Balance ces informateurs, c'est formidable, hein, Dodo, hein. Alors qui c'est qui a balancé le nom de Willy ou de Black, là? Eh, hey. Bah réponds. Mais putain, mais réponds-moi quand je te parle au moins une fois. Mais t'as de la flotte dans la tête, c'est pas possible, hein.
Tu l'as refait cette connerie tous les jours, tous les jours. T'es là en train d'interroger les gars, bah alors disons, petite affaire à nous filer, moi je pourrais vous donner le nom du mec qui vous a balancé, c'est ça, hein, c'est bon ça. Et le résultat c'est quoi? Willis fait tailler la gueule, on perd nos indics. Et puis toi tu récupères des affaires de merde pour mettre dans des statistiques de merde.
Mais des indics on en retrouve, ça bah, court les rues.
Des indics comme Willy, oui, qui t'amènent des affaires d'un kilo, un kilo et demi. Oh, ah, le petit cahier, oh, le petit cahier, oh, c'est... il me fait chier ton cahier. De ton pistolet à eau, ta bombe à merde, tout ça, tout ton petit nain là. Oh, excuse-moi, t'es con, mais t'es con. T'es con. On est con. On est nul.
Les genoux.
Voilà, donc une sale ambiance, hein, avec effectivement le chef qui s'amuse à faire des blagues et à faire ses mots croisés, qui va. Bah, qui aime bien le Ricard aussi. Et puis autour de lui, donc dans son équipe, des gens qui essaient de bosser.
Alors, 27.
Oui, de Bertrand Tavernier. Donc film de 1992, donc là il s'agit plus de ripoux mais de flics qui essaient de faire tout ce qu'ils peuvent, hein, pour avoir des affaires, et ça se passe pas forcément très bien, l'administration, la hiérarchie particulièrement pointée du doigt, et au final CL627 a de grandes qualités, notamment documentaire je pense, Tavernier parfois s'approche quand même de la satire, hein. Je pense que parfois il exagère. Je ne sais pas si vous avez un avis sur ce film, si vous vous souvenez un peu de...
Je l'ai vu quand il est sorti, donc ça fait de nombreuses années, donc il n'est pas assez frais à ma mémoire malheureusement pour que j'en parle.
Voilà. Mais c'est un bon souvenir quand même.
Oui, c'est un bon souvenir.
C'était un des premiers films, je pense. Enfin, moi, ça m'avait frappé, c'était cette immersion dans la police, effectivement.
Mmh. Oui, c'est l'un des plus réalistes dans ce domaine, probablement.
Numéro 7, c'est Marie Bourgoin, il n'y a pas de doute là-dessus. Les numéros 2 et 3 sont Pénélope et Joseph, mais pour les 4 têtes, il va falloir attendre les empreintes génétiques.
Si on arrive un jour à mettre un nom sur cette tête, j'aimerais bien que vous et votre groupe vous en occupiez, hein?
Et cette trace de pied dans la maison, il se trimballe les pieds nus? Je pense qu'il se déshabille pour pas tâcher ses vêtements. L'eau n'est pas branchée dans le lotissement?
Il a tous les civets avec la flotte de l'étang. Un saut dans chaque main et en avant.
Il y a 80 mètres entre l'étang et la maison. Il lui a fallu sûrement plusieurs sauts. Ne serait-ce que pour rincer la baignoire et l'évier.
On a même trouvé de la vase dans la tuyauterie.
Des cheveux aussi, non?
Oui, des cheveux, des poils pubiens et des restes de tissu humain dans les canalisations. D'autres cheveux aussi dans le coin sud de la grande pièce. Aucune empreinte.
L'emplacement du trou dans le mur, hein, à 2 mètres au-dessus de la grande tache, correspond à la position du crochet sur la photo. Et ça?
Ça, c'était dans l'étang.
Et alors?
Mais alors rien. Ça a peut-être rien à voir avec les meurtres.
Voilà. Alors, une idée dans le studio, oui.
Ben, c'est un film de Frédéric Chanderfer,
oui.
Sur la police scientifique française.
Ouais. Enfin, la police judiciaire, hein. Oui.
Oui. Bon, enfin, qui montre aussi le travail de la police scientifique.
Oui, voilà. Tout à fait. Hein. On voit le processus de l'enquête, le médecin légiste, l'ADN, l'enquête de voisinage, la collaboration entre les services. Et on est là dans une représentation bien documentée, sans être naturaliste, hein, du métier d'enquêteur. La lumière, le scénario, la documentation, l'ambiance, le dénouement, tout concourt à faire de scènes de crime un film que moi je considère comme l'un des plus réussis sur ce sujet. Un autre extrait où là, ça me paraît un peu moins brillant.
Le préfet a moyennement apprécié le numéro de girouette dans la cour, tu t'en doutes.
J'emmerde le préfet.
Je sais. Je suis là pour te prévenir.
Prévenir de quoi?
L'administration est une vieille fille, Léo. Elle aime pas qu'on la prenne en levrette. Il faut que tu dises à tes hommes de rentrer dans le rang, qu'ils arrêtent leurs conneries de pétition, préavis de grève. Toute cette campagne de dénigrement contre Klein.
Klein a commis une faute. Il doit être sanctionné.
C'est à l'inspection générale des services d'en décider, pas à toi. Une enquête est en cours. Et si la responsabilité de Klein doit être établie dans cette bavure, elle le sera. S'attaquer à Klein, c'est s'attaquer à la hiérarchie. Et s'attaquer à la hiérarchie, c'est remettre en cause le système. On vous laissera pas faire.
Et 10 morts pour rien, alors?
Moi, je dirais 36 quais des
enfers. Et 10 morts en faisant son travail.
Tout à fait.
Olivier Marchal.
Marine. Oui, effectivement, d'Olivier Marchal. Alors, voilà, Olivier Marchal, qui est un ex-flic, hein, qui nous en met plein la vue en opposant deux stars du cinéma français et qui ne se prive pas de surligner les séquences en utilisant abusivement la musique. C'est peut-être parce qu'il connaissait le métier de policier qu'il a donné une allure un peu trop romanesque à son long métrage, me semble-t-il. Voilà. Un avis sur ce film?
Je crois qu'il avait beaucoup aimé. Enfin, il aime beaucoup les films de Michael Mann. Et en fait, il a essayé d'imiter son style dans les scènes de fusillade, ce qui ne fonctionne pas très bien. Sinon, pour le reste, bon, c'est assez théâtral. C'est une tentative aussi d'héroïser comme ça les grands policiers. Bon, pas inintéressant, mais c'est pas un film accompli.
En même temps, ils les humanisent beaucoup aussi, quand même. Ils montrent beaucoup leurs petits, leurs grands travers.
Oui, bien sûr. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un côté...
Des héros, c'est plutôt des hommes assez ravagés par leur métier.
Ouais, le récit est assez épique, je trouve.
Oui, voilà, oui. Ah, c'est quand même deux hommes qui se battent pour avoir la place d'un autre qu'on a entendu, donc Dussolier. Dussolier qui se retrouvait d'ailleurs dans le scène de crime de Schindlerfer. Voilà,
où il est meilleur.
Qui était flic. Où il était meilleur, effectivement. On lui demandait d'ailleurs de jouer totalement différemment. Dernier extrait, ben là, c'est peut-être une belle illustration de ce que le cinéma américain a pu produire comme fantasme.
Allez, laissez passer. Hop, voilà le connasse. À moi Paris. Allez, 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 avance, 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 avance. Hop, hop, hop. Police, dégage. Wouhou. La police, dégage!
Alors, ah oui, il y a du pimpon, hein.
Non, je sais pas, c'est pas le flic de Beverly Hills.
Non. Aucune idée.
Non.
Non. Alors, le petit lieutenant de Xavier Beauvois.
Ah oui.
Voilà. Et ça, c'est le moment. Alors, le petit lieutenant, c'est l'histoire donc bien d'un jeune promu de la police qui quitte Le Havre pour Paris, qui vient à la police judiciaire. Et là, c'est le premier moment dans le film où il monte dans une voiture et il met le gyrophare. Et là, on a l'impression ben voilà, qu'il est, c'est lui le chef, c'est lui le shérif, et c'est pour ça qu'il insulte tous les automobilistes. C'est la police, c'est la police. Voilà. Et ça, il me semble que c'est aussi une image qu'on peut avoir du cinéma américain, voilà, du flic un peu tout puissant qui déboule dans les rues, à toute allure. Voilà. Et c'était un film d'ailleurs qui a remporté 3 Césars, qui est sorti la même année que 36 Quai des Orfèvres. Je ne sais pas si 36 Quai des Orfèvres a eu quelconque récompense, mais pour Xavier Beauvois, ça avait plutôt bien marché. Hein. C'était meilleur film, meilleur réalisateur et je ne sais trop quoi.
Nathalie Baye, je pense, avait quelque chose aussi.
Et Nathalie Baye, effectivement, qui joue une flic qui était alcoolique, qui prend le petit lieutenant sous son aile parce qu'elle a perdu son fils. Voilà, donc ça, c'est un petit ressort sentimental. Ainsi s'achève ce blind test, ma foi, plutôt bien réussi, quand même.
Dans l'ensemble.
On passe bien à la suite.
Cinérama.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Prix du jury à Cannes, Police, troisième long métrage de Mai Wen, sort aujourd'hui sur les écrans, un film entre fiction et documentaire qui nous fait partager le quotidien de la brigade de protection des mineurs. Pédophiles, pickpockets mineurs, travaillant en réseau, violences sur enfants, interrogatoires, pression politique, rien de bien gai. Mais après tout, le film n'est pas là pour romancer, même si les propos des enfants ont été volontairement atténués. La semaine dernière, nous vous avons fait écouter Mai Wen parlant des dialogues qu'elle avait dû soumettre à la DAS, cette administration affirmant qu'il est plus douloureux pour un enfant de jouer à raconter un viol que de voir dans une séquence ses parents décapités. Alors le groupe de cette brigade de protection des mineurs que nous suivons est compact, soudé, un peu moins de 10, ils bossent ensemble ou en binôme. Le film ne s'attache pas seulement à nous montrer des affaires découvertes ou résolues, les interrogatoires des plaignants et des accusés, mais aussi les relations affectives que chacun entretient avec son boulot et avec sa famille. C'est dire que l'on passe déjà la quasi du temps du film avec cette brigade et qu'en plus on va chez eux ou dans une boîte de nuit danser en leur compagnie quand une bonne affaire est résolue et qu'ils ont besoin de décompresser. Moment de décompression où le talent de Joe Star est mis à contribution, des petits pas chaloupés et hop, la séquence s'étend. Au milieu des comédiens comme Karine Viard, Marina Foïs ou Nicolas Duvauchel, Joe Star a le meilleur rôle. On sent que Mai Wen a une attirance quand même pour le rappeur, d'autant plus que Mai Wen a introduit dans sa fiction un personnage qu'elle interprète et qui va tenter de percer la carapace de ce Joe Star, une femme timide issue d'un milieu bourgeois qui réalise un documentaire photo au sein de cette brigade, sorte de double du réalisateur. Alors, au-delà de ce personnage un peu artificiel, la mécanique fictionnelle fonctionne à plein régime. On a le groupe, les affaires parfois sordides mais bien réelles, et puis les individualités. Si on masque l'aspect policier de police, on a là un regard sur le travail en équipe montrant une somme d'individualités. Ceux qui l'ouvrent et qui n'hésitent pas à remuer la hiérarchie, ceux qui débutent plein d'espoir, ceux qui n'ont que leur boulot, ceux qui, à force de se côtoyer, en finissent par s'aimer ou au contraire par exploser. Autant de diversité qui ne permet aucun temps mort, si ce n'est les moments où le groupe se laisse aller en dehors ou dans le commissariat. Alors l'intérêt documentaire du film est notable et les affaires recensées ont toutes été vues par la réalisatrice pendant son stage d'immersion avant l'écriture du scénario. Ça, vous l'avez entendu la semaine dernière dans l'interview qu'on a fait avec Maïwenn. On s'aperçoit que ces atteintes aux mineurs concernent tous les milieux sociaux. Il s'agissait aussi pour Maïwenn de faire un état des lieux de la sexualité des adolescents. On n'est pas sous Louis XIV, dira une fille au commissariat. Ainsi, on apprend la différence entre un viol et un miaule. L'un est sans consentement, l'autre, on a du mal à savoir. Et ça, les flics de cette brigade en voient passer beaucoup. La mise en scène s'articule entre fluidité, caméra épaule. Le tout est limpide. Les acteurs sont tous très bons et font de cette fiction un film captivant à tel point qu'on s'attend à voir la suite ou voir cette fiction déclinée en série comme savent le faire les Américains. Je pense que, effectivement, le film de police est traité de telle manière à ce que j'avais l'impression effectivement que c'était un pilote de série et qu'après on allait découvrir encore plus ce que cachent les personnages, retrouver d'autres enquêtes et ainsi de suite. Enfin voilà, pour moi c'est un très très bon film à voir au Gaumont, mais au aussi au Diagonal évidemment. Vous l'avez vu
Non, d'art. Je l'ai pas vu, j'ai juste vu la bande annonce et c'est vrai que c'est un film qui me paraît intéressant. J'espère qu'il ne se résume pas à une performance d'acteur, parce que c'est vraiment un film d'acteur.
Oui.
Et Maïwenn aime beaucoup les acteurs, étant elle-même actrice.
Depuis longtemps.
Et donc, voilà, c'est effectivement, je crois qu'il faut le voir pour, le juger, tout simplement. Mmh.
En tout cas, je le conseille. On va écouter encore Maïwenn et Karine Viard, qui parlent effectivement du policier, puisqu'il est question de ça quand même dans ce film. Qu'est-ce qu'un policier? Qu'est-ce qu'il fait? Et puis aussi, Maïwenn revient sur ce côté. J'ai voulu examiner un peu ce qu'est la sexualité des adolescents maintenant.
On a une place pour votre garçon, mais pas pour que vous soyez tous les deux.
Un coup de fil, c'est
Romain,
tout ce que vous avez à faire.
Je peux pas intervenir sur toutes les affaires, c'est pas possible.
Les policiers auxquels on a accès, ceux qu'on déteste, c'est ceux qui sont de la BRB, ceux qu'on voit dans les espèces de cow-boys, qui sont là dans l'humiliation, dans le pouvoir et sur les détestes. Mais dès que tu... Enfin là, nous, on a rencontré des gens vraiment d'un autre monde.
Ils font pas le métier pour les mêmes raisons. Ce métier pour les mêmes raisons. Ils vont pas à la police pour les mêmes raisons.
Les policiers de cette brigade-là n'ont pas les mêmes motivations que le flic lambda à la BRB qui roule des mécaniques. On peut pas comparer.
C'est pas un truc de pouvoir.
Ils sont volontaires quand ils vont à la
plupart. Les ceux qui sont volontaires sont les plus efficaces, les plus investis, les plus écorchés. Et ceux qui ne sont pas volontaires et qui se retrouvent dans cette brigade-là, en attendant d'être mutés à un nain, comme par hasard, ça se ressent, ils sont frustrés, ils attendent les moments où il y aura de l'action. Ouais.
Et vous exposez leur problème vis-à-vis de la hiérarchie dans les brigades aussi?
Comment? J'ai pas compris.
Là, vous montrez qu'il y a un problème de hiérarchie aussi. Vous montrez qu'il y a des brigades qui sont plus importantes que d'autres aussi.
Oui.
Ça, on vous l'a exposé, on vous a dit, voilà comment ça se passe.
On me l'a pas dit, je l'ai vu.
On a beau tous les jours faire du cas par cas, c'est pas pour autant que voilà, on changera le monde ou autre. Mais moi ça reste quoi, c'est ça me tord quoi, je peux pas.
Je ne mets que ce que j'ai vu, que ce qui me fait plaisir de voir. Je me dis jamais qu'est-ce que je peux faire pour que le spectateur se dégourde, enfin s'aère la tête. J'ai une construction de scénario qui est très intuitive quoi. Quand ils s'aèrent la tête et qu'ils vont en boîte de nuit et qu'ils dansent, ben nous aussi on a envie de danser.
Ben,
c'est ce que j'ai essayé de faire quoi.
Parce qu'il y a une intensité, c'est comme. Je veux dire, c'est comme les reporters de guerre ou des trucs comme ça. Tu peux pas rentrer, tu peux pas avoir une vie complètement normale. T'es dans une intensité, t'as l'impression d'être essentiel et parfois t'es enragé parce que t'as pas les moyens de faire ce que tu veux. T'as des moments de découragement. Mais cette chose se vit en groupe parce que vous vous rendez compte qu'ils interrogent souvent les gens à deux, que les moments très forts se font avec les autres, qu'elle, quand elle commence à se faire, à s'énerver, tout de suite, il y a les trois autres qui arrivent. Je veux dire, c'est des moments de la vie qui sont forts. Après, la vie intime, elle est plus tiède. Elle est essentielle, mais elle est plus tiède. Donc, il faut évacuer pour ne pas rentrer chez toi, manger des paupiettes et regarder l'amour est dans le pré, quoi. C'est, Donc ça donne des vies un peu particulières, mais il peut y avoir un parallèle avec les acteurs aussi de ça.
T'as aidé des mecs à violer une copine à toi ?
Je ferai tout pour que je vois plus ma fille.
Une mère a enlevé son bébé.
Papa, il m'aime trop.
Le bébé est sorti du coma.
J'aime mon boulot et il est important pour moi.
Mais c'est le pays des bisounours.
Vous voulez que je vous fasse des aveux pour que vous passiez une bonne soirée ?
Mais vous savez, c'est un état des lieux de l'état actuel de la sexualité chez les jeunes aussi. Que j'ai voulu faire dans ce film. C'est ce qui m'a frappée les premiers jours où je suis arrivée à la brigade. C'était je me suis sentie très vieille. Je me suis dit, mais mon Dieu, mais ils sont prêts. Ils font tout pour. Ils sont prêts à n'importe quel acte sexuel pour un MP3, un portable. Alors, quelque part, ce qui est positif, c'est que du coup, ils sont beaucoup plus à l'aise avec leur corps et il n'y a plus trop de tabous. Mais du coup, où se situe la pudeur, à quoi ils associent les sentiments, tout est faussé. Enfin, je me suis sentie très vieille. Moi, un acte sexuel restait et reste toujours...
Quelque chose d'important.
Oui, sacré, lié à la pudeur, à un abandon de soi.
Est-ce que il est en prison à cause de moi ?
Non. Il va en prison à cause de ce qu'il a fait. Et nous, on intervient pour les punir.
Voilà, donc c'était l'interview de Mai Wen et de Karine Viard, réalisée en septembre, pour le film Police, aujourd'hui sur les écrans. On fait une courte pause.
Petite pause musicale, alors on va écouter un petit souvenir. C'était le printemps dernier, c'était Tomboy, et c'est un extrait de la bande originale.
Et donc, la petite fille qui joue dans Tomboy,
me raconte. Joue également dans Police.
Ah,
voilà, à vous de le découvrir.
De la bande originale du film Tomboy qui est sorti sur les écrans, c'est au printemps, c'est ça, Marine ?
Au printemps, c'est en mai.
Voilà.
Cinérama.
Bon, est-ce que de voir ce film, ça vaut le coup de se prendre une méga prune, Fourrière et compagnie ?
Sur Divergence FM.
Donc, on continue sur le cinéma français avec cette fois Après le Sud.
J'ai un peu froid, je peux me rhabiller ?
reste pas là, je vais me faire virer.
Une carte au boulot.
Maman, c'est Amélie. Pourquoi tu réponds pas? C'est quoi ça?
Cela, ce sont des baklawa.
Je vais vous en prendre deux.
S'il n'y a aucune contre-indication, je m'emplace le ballon dans votre estomac.
Et je perdrai combien de kilos?
Je vais demander de retourner voir mon collègue. Vous me devez le respect, jeune homme.
J'entends pas.
Excuse-moi, putain. Partez quand, monsieur?
Mais tout de suite, ce soir.
Luigi, attends!
Merde! Non, monsieur, laissez-moi!
Ça va? Vous vous sentez mal?
À l'instant, donc, la bande-annonce de Après le Sud. Alors, si la musique vous dit quelque chose, c'est normal, ça vous rappelle peut-être ceci.
J'aime profondément les putains, je les trouve merveilleuses.
La bande-annonce de la Polonite, sortie il y a à peine un mois, avec en plus la même actrice dedans. C'est bien, les distributeurs font des efforts. Après, on dira que le cinéma français, c'est toujours la même chose. Bref, revenons à nos moutons de Panurge. Après le Sud est le premier film de Jean-Jacques Jouffré et prend place dans la campagne environnante de Marseille en plein été. On y suit la journée d'une jeune fille dont la mère obèse part se faire opérer, tandis que son copain se brouille avec son père et que son voisin retraité part faire des courses. Difficile d'en dire plus sans dévoiler l'histoire, si ce n'est que l'on se retrouve dans leurs doutes et leurs humiliations qui mèneront à la tragédie. La même après-midi sera racontée à travers leurs différents points de vue, par des flash-forwards et des flashbacks plutôt bien orchestrés, jusqu'à parvenir à l'épilogue sanglant inspiré d'un fait divers. Le croisement des destinées, les secrets de chacun et le cheminement vers le drame, Inaritu n'aurait pas fait mieux, ou plutôt si. Car Après le Sud souffre cruellement de cette comparaison avec Babel ou 21 grammes, et malgré ses personnages hauts en couleur, l'œuvre se contente de remplir méthodiquement le cahier des charges du film choral. L'ambiance et des décors très travaillés, entre poussière et lumière, instaurent une tension qui demeure relativement modeste, à l'exception de quelques scènes, tant et si bien que l'on espère que le film va enfin commencer au moment où il se termine. Un film donc qui n'a pas vraiment été au bout de ses ambitions, mais qui est tout de même sauvé par une distribution aussi illustre qu'inconnue, et qui laisse présager du meilleur pour la carrière de ce réalisateur, qui était d'ailleurs acteur avant.
D'accord. Et ça, c'est projeté
au
Diagonale. Alors au Diagonale, il y aura aussi eh bien, une partie hein, des films qui sont présentés au Cinémède, même si l'essentiel se passe au Quorum de Montpellier. Le Cinémède, eh bien, on va en parler grâce à toi, Marine, puisque tu as vu Jean-François Bourgeot, hein, le directeur du festival.
Oui, voilà, et du coup, il va nous parler un petit peu de cette 33e édition.
Jean-François Bourgeot, bonjour. Alors, l'année 2011, du moins le début, a été quand même assez riche en événements politiques, sociaux. Je pense notamment à la Grèce, au mouvement des indignés en Espagne qui s'est propagé, et bien évidemment aux révolutions arabes. Est-ce que tout cela s'est ressenti dans la programmation et dans la préparation et peut-être par rapport au thème des films aussi?
Oui, alors je dirais oui et non. Je dirais oui tout simplement parce que ce qui arrive dans le réel, dans la réalité des sociétés, se retrouve dans le cinéma de ces mêmes sociétés. Il y a eu en Yougoslavie un cinéma d'avant-guerre, un cinéma de la guerre et un cinéma de l'après-guerre. C'est l'exemple le plus flagrant sur cette histoire que nous, on a suivi d'assez près, puisque nous, on a connu le cinéma yougoslave quand Tito était vivant. Donc je veux dire, bon... Voilà. C'est vrai que la Grèce, on n'a pas cherché à faire quelque chose de particulier dans nos recherches particulières, mais c'est vrai que le film grec qui est en compétition, qui s'appelle Tungsten, est un film, il n'y a pas besoin de sortir de Polytechnique pour voir que ça parle de la crise et pour voir que la société grecque, elle a des problèmes. Pour autant, ce n'est pas le sujet frontal du film, forcément. C'est des personnages, c'est des déplacements, c'est une espèce de vide dans la vie de jeunes garçons, mais c'est aussi la souffrance de quelqu'un au travail. Mais on sent quand même que c'est une société un petit peu en chute libre, économiquement, socialement, etc. Pour le printemps arabe, je préfère appeler encore le printemps arabe plutôt que révolution, parce que... Une révolution, ça se mesure sur la durée, ça se fait pas simplement en faisant tomber un dictateur, c'est-à-dire que c'est des choses plus complexes que ça. Mais disons que le printemps arabe, oui, d'une certaine façon, a influencé notre programmation et on a décidé de consacrer un beau moment en termes de film mais aussi de débat à l'Égypte. On a préféré se concentrer sur l'Égypte, qui est un pays qui a une grande tradition cinématographique, plutôt que de vouloir absolument montrer ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe aussi au Yémen. Hein. Le Yémen, ça pète, mais enfin, le cinéma yéménite, il est déjà loin de la Méditerranée, on va dire. Et puis, la Tunisie, le Maghreb, etc. Alors, la Tunisie, oui. Elle sera présentée avec le court-métrage d'ouverture, qui est Yasmine et la Révolution, qui est un film tout à fait charmant, qui joue à la fois sur le registre de l'amour, du sexe, de la relation homme-femme, mais au-delà de la nécessité d'aller faire la manif, parce que quand même, c'est sérieux, la manif, bon, etc. Bon, ça, c'est un film tout à fait charmant d'ouverture, qui parle de ça aussi, comment la jeunesse, elle s'implique dans ces choses-là. Mais alors, sur l'Égypte, oui, c'est gros, et on a décidé de faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire de mettre en perspective une production récente, et une production plus ancienne. Dans la production tout à fait récente, il y a des documentaires comme Goodbye Moubarak, qui est fait par Katia Jarjoura, qui est une cinéaste libanaise.
L'Égypte était profondément en crise. Les services sociaux s'effondraient, le chômage grimpait et les prix flambaient. Tous les ingrédients étaient réunis pour que la marmite explose. Sur ces images, le sentiment de révolte n'est pas encore visible. Mais il se révélera dans les paroles des hommes et des femmes que nous allons rencontrer et qui nous entraîneront dans ce pays au bord de la révolution.
Mais aussi Tahir, donc Place de la Liberté, qui est un documentaire réalisé par un Italien mais qui est resté sur place et qui a tout enregistré, qui a tout vu et qui a monté ça de manière hyper intelligente. C'est-à-dire que c'est un film à la fois d'action, de suspense, puisque c'était dur hein, sur la place Tahir ce qui s'est passé. C'était une forme de guerre civile, quoi. Hein, je veux dire, avec, on s'en souvient, Moubarak qui libérait des droits communs quand même pour aller faire le coup de feu sur les manifestants. Et c'est aussi un espace de réflexion du comment on fabrique la démocratie, tout ça, etc. Et le film montre très bien ça. On a une fiction qui est en compétition. Et je disais à une de vos collègues, c'est un film qu'on aurait choisi de toute façon, même s'il n'y avait pas eu le printemps arabe, qui s'appelle Les femmes du bus 678, qui aura d'ailleurs un distributeur en France, que je félicite. Et c'est un film qui parle de la société égyptienne à travers le harcèlement sexuel dont sont victimes les femmes dans les transports en commun en Égypte. C'est quelque chose. Hein. Alors, si vous avez de la compassion pour Tristan Bannon, là, c'est Tristan Bannon multiplié par 100 000, par 200 000, par 300 000. Quoi, hein. On est dans une réalité, je dirais, un peu moins... bon, voilà, un peu plus dur, quand même. Bon. Mais je veux dire que là, c'est collectivement que les femmes en Égypte, elles sont... Parce que le statut de la femme, il n'est pas encore en Égypte, ce qu'il est quand même en France ou en Europe, on va dire. Donc voilà, et il y aura des films un tout petit peu plus anciens, c'est-à-dire qu'en quelques années, deux films de Yousri Nasrallah, Femmes du Caire, là où on retrouve aussi la problématique des femmes. Femme du Caire et puis l'Aquarium dans lequel joue Amr Waked, un très très grand acteur égyptien, très célèbre hein, dans le monde arabe, qui est un petit peu d'ailleurs pas forcément à l'aise avec ce qui se passe actuellement parce que lui il a pris fait et cause évidemment pour ce changement de régime, ça, mais comme je vous disais tout à l'heure, un printemps arabe ça fait pas forcément une révolution, donc faut voir un petit peu là où vont être les points de blocage, et il sera à Montpellier pour parler de tout ça d'ailleurs. Et puis, encore plus en arrière, on a décidé de montrer quatre grands films qui traitent directement de la société, c'est des films politiques, des grands films politiques de Youssef Chahine, La Terre, Retour de l'Enfant Prodigue, Le Moineau et Guerre Centrale, qui sont des films qui s'étalent des années 50 aux années 70. Donc voilà, on va avoir un panorama assez important sur l'Égypte, y compris d'ailleurs avec deux courts-métrages, dont un compétition, qui s'appelle Remboursé, que je recommande, qui est un truc terrible, terrible. C'est un court-métrage, hein, c'est 12-13 minutes. Mais alors, quand on voit ça, on se dit, mais ça va péter ce pays, ça va forcément péter. Quoi. Donc oui, on a fait ce choix. Voilà. Et là, on en est très contents, parce que c'est normal de faire ça. Mais comme je dis toujours, c'est parce que les films étaient là. On est un festival de cinéma. Moi, j'aurais pas pris, si j'avais pas trouvé ces films-là, qui sont des bons films, j'aurais pas pris des actualités télévisées à chaud pour se faire plaisir et parler de l'Égypte. Non. Il faut qu'il y ait des films, puisqu'on est un festival de cinéma. Et les films sont là.
Alors, l'ouverture se fera vendredi à 20h au Quorum, avec l'avant-première de L'Art d'aimer de Emmanuel Mouret. Il y a 2 ans, c'était Amenabar avec Agora. L'année dernière, c'était Salvadori de Vrai Mensonge, qui était tourné à 7. Alors, pourquoi cette année le choix de ce film? Enfin, quel rapport avec le cinéma méditerranéen?
D'abord, c'est parce qu'Emmanuel Mouret est marseillais. Non, c'est déjà pas mal. Mais c'est vrai que la question, elle est tout à fait pertinente, parce que je dirais que c'est peut-être le Marseillais qui fait quand même le cinéma le plus français du monde. C'est vrai que Mouret, il aime Truffaut, il aime Romère, il aime ces gens-là, qui ne sont pas des gens forcément méditerranéens. Il aime le cinéma choral, il aime la relation amoureuse, il aime la question de la séduction, la question du couple, etc. Et c'est vrai que si je l'ai choisi, c'est aussi d'abord parce que j'adore le film. Alors, je suis le seul à l'avoir vu, hein, pour l'instant, donc personne ne l'a vu dans l'équipe que moi. Donc si les gens ne sont pas contents, ils pourront me le dire à moi. Mais c'est un film que je trouve très, très touchant. C'est une variation, hein, c'est un ensemble de variations sur cet art d'aimer. L'art d'aimer, c'est un titre du grand auteur latin Ovide. L'art d'aimer pouvant être compris d'ailleurs comme l'art de la séduction. Et voilà, c'est une espèce de combinatoire avec des grands acteurs français que j'adore, qui mélangent les générations d'ailleurs un petit peu. Puisqu'on trouve aussi bien Ariane Ascaride que Frédéric Bell, Gaspard Ulliel, François Cluzet, Judith Godrèche, Pascal Arbillot. C'est très... Julie Depardieu. Julie Depardieu fait peut-être le personnage le plus drôle qu'elle a fait jusqu'à maintenant. Alors, dans ce film-là, Julie Depardieu, elle éclate comme personnage comique, quoi, comme actrice comique.
Je me demande si je devrais pas essayer d'avoir une aventure. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je sais pas, ça, si vous ressentez un tel besoin...
Quoi? Ça fait un an que t'as pas fait l'amour?
C'est comme pas de ma faute si je tombe pas amoureuse.
Mais en attendant, tu pourrais faire quelques petites rencontres pour te faire un petit peu du bien.
J'ai pour toi une attirance qui n'a fait que grandir ces dernières années.
Mais quel genre d'attirance? Tu sais, depuis qu'on est ensemble, j'ai jamais couché avec quelqu'un d'autre. Eh bien, peut-être que là, je vais coucher avec quelqu'un. Mais juste une fois, après, ça en va loin.
J'ai prévu du champagne, ça vous va?
Vous vous êtes dit que ça me ferait tourner la tête et que vous pourriez plus facilement abuser de moi, c'est ça?
Non, c'est que j'en avais, c'est tout.
J'aurais préféré que ce soit pour me faire tourner la tête. Non, Boris.
C'est juste pour que je sache.
Boris, je serai jamais à la hauteur de tes fantasmes.
Je t'aime, je t'aime, je t'aime.
C'est pas de la mauvaise volonté, hein. C'est que je suis incapable d'être infidèle. Tu veux pas y aller à ma place?
Quelqu'un d'autre que moi est rentré dans ta vie?
Il y en a plusieurs.
Plusieurs?
Mais qu'est-ce qui est pas naturel?
Bah là, le fait que vous m'embrassiez.
Mais je vous ai embrassé naturellement.
J'ai l'impression d'être un feu rouge.
Un feu rouge?
Bah oui, vous me regardez comme si vous attendiez que je passe au vert, je vous assure, ça met une pression.
Mais j'ai rien fait.
Justement.
Alors, Agora, c'était peut-être pas vrai, mais Salvadori, c'était déjà ça. C'était quand même ouvrir un peu en légèreté. C'est-à-dire que voilà, on se retrouve, ça fait un an qu'on ne s'est pas vu, le festival recommence, et on se retrouve, on est content, le festival, ça va être 9 jours de nouvelles aventures cinématographiques, avec des choses dures, avec des choses fortes, des choses compliquées, des choses aussi simples, des choses que j'espère le plus conviviales possible. Et pour marquer notre désir de convivialité, j'ai choisi de commencer par quelque chose qui est plutôt sur le registre de la comédie, et qui est censé quand même nous mettre tous de bonne humeur. Et c'est très bien de commencer en étant de bonne humeur.
Alors, Emmanuel Mouret était déjà présent l'année dernière.
Il y a 2 ans.
Vous avez l'air d'établir quand même un espèce de climat de fidélité par rapport à vos invités. Je pense à Carmen Mora. Ouais. Il y en a d'autres aussi comme ça?
Les fidélités, les plus belles, s'éteignent avec la mort. Hein. Mario Monicelli était venu 3 fois au Festival de Montpellier. J'avais réinvité il y a quelques années, justement l'année où Salvadori était venu. On avait fait un hommage à Salvadori. Ça avait permis à Salvadori de rencontrer son maître Mario Monicelli, qui avait à l'époque 93 ans, pardon, et qui nous avait montré son dernier film, qui était les Roses du désert. Et c'est vrai que cet homme qui s'est suicidé à 96 ans ou 97 ans en jetant de sa chambre d'hôpital et tout, parce qu'il en avait marre et tout, bon, bah, c'est quelqu'un qu'on a adoré, qu'on adore et qui était fidèle à Montpellier, qui revenait. Et là, d'ailleurs, on va passer Mes chers amis, qui est un film qu'il a tourné alors que c'est Pietro Germi qui l'avait écrit, qui lui-même était mort et donc n'a pas pu le tourner. Et c'est vrai que le festival, il fait beaucoup de ça. C'est vrai que Carmen Mora, qui a accepté d'être notre marraine, qui est venue l'an dernier et tout, ben elle revient cette année. Et non seulement elle revient, mais elle revient en nous amenant dans ses bagages, si je puis dire, Natalia Verbeke. Natalia Verbeke, c'est la jeune comédienne qui a le rôle principal dans Les Femmes du sixième étage, qu'on a présenté l'an dernier, qui est magnifique et tout, mais qui n'avait pas pu venir l'an dernier. Et Carmen lui a tellement dit du bien du Festival de Montpellier qu'elle veut absolument découvrir le Festival de Montpellier. Mais c'est aussi Andrea Ferréol, que j'avais invité l'an dernier pour nous parler un petit peu de ce film un peu qui a été un film monstre, un film un peu scandale, qui était aussi le film de ses débuts au cinéma à elle, qui était La Grande Bouffe de Marco Ferreri. Et redécouvrant Andrea Ferréol, en mettant le nez dans sa filmo, j'ai découvert que c'était absolument insensé. C'est une femme qui a tourné à peu près 140 films, français ou italiens, parce qu'elle a tourné énormément de films italiens ou téléfilms, et puis avec des choses tout à fait différentes. Et on va la voir, par exemple, samedi, présenter Le Dernier Métro de François Truffaut, où elle joue, présenter Corentin, Les Infortunes Conjugales, aux côtés de Jean Marbeuf qui a réalisé le film et qui est content de venir à Montpellier pour parler de ce film. Et puis elle présentera le soir la copie restaurée d'un des films plutôt de la fin de Werner Renner Fassbinder, qui est Despair, un film dont elle a le rôle féminin principal aux côtés de Dirk Bogarde, et qui est une restauration absolument magnifique, qui est une grande curiosité. Hein. C'est un film étonnant, d'un baroquisme extrême. Enfin, c'est vraiment à voir. Et c'est pas évident de trouver des acteurs dans une même journée capables de vous présenter trois moments de leur vie d'artiste aussi différents que ça. Quoi. Donc ça, c'est aussi ça un festival qu'on peut faire dans un festival. On verra aussi le Zoo, Z and Two Notes de Peter Greenaway, également dans lequel elle joue. Et on reverra la Nuit de Varennes de Scola. Elle a joué aussi avec Scola. Enfin, je veux dire, voilà. Et puis c'est quand même une voisine. Elle est d'Aix-en-Provence. Il y a une place qui porte son nom, puisque son père a été maire d'Aix-en-Provence, Andrea Ferréol. Ah ouais. C'est, voilà, alors des amitiés comme ça, on en a plein, c'est des fidélités effectivement, y compris d'ailleurs des fidélités lointaines pour les jurys. Moi par exemple, j'ai une amie bulgare qui est journaliste à Sofia et qui vient dans le jury de la critique tous les ans. Alain Masson qui est écrit dans la revue Positive qui vient tous les ans. Michel Simon qui est venu souvent, qui est le patron de la revue Positive, qui sera président du jury de l'Antigone d'Or cette année, etc., etc. Voilà, donc oui, effectivement, des fidélités. C'est important.
Et oui, c'est important, les fidélités. Et ce qui est important aussi, alors, il en a été question avec Jean-François Bourgeot, hein, du film de Werner Fassbinder, qui s'appelle Despair, qui est un film, c'est le premier film de Fassbinder que j'ai vu. Alors, ça remonte à une certaine époque. Et c'est un film sur la schizophrénie absolument admirable, voilà, que je conseille à tous les auditeurs. Et ça fait partie bien des 250 films qui seront présentés pendant cette 33e édition du Cinémed, où on sera présent.
Hein. Oui, complètement.
Voilà, on sera présent, donc on fera des petites interviews de réalisateurs, peut-être de spectateurs, et on vous bien donnera ça ensuite dans les émissions suivantes de Cinérama.
C'est l'or.
Voilà, ben, je me suis trompé, ça arrive, hein, tu vois. Donc on va plutôt parler de l'agenda. Donc c'est ce soir, c'est à 20h, l'avant-première de Squat, La ville est à nous. C'est un film de Christophe Coelho. Et Christophe Coelho, le réalisateur, sera là. Alors il se trouve que c'est une production du Languedoc-Roussillon, c'est CP Production, donc, qui veut dire Carl Pierre, hein, production. Voilà, donc c'est la productrice de Pierre Carl qui produit ce film. C'est un film, en fait, qui suit les squatteurs à Barcelone, c'est-à-dire c'est des gens jeunes, un peu moins jeunes, qui décident d'occuper tous les appartements qui sont inoccupés et qui font de la résistance comme ça et qui essaient de voir les rapports entre les politiciens et puis ceux qui détiennent les immeubles, tout le fric qu'il y a autour de ça. Et qui ont le mérite de sympathiser en plus avec les voisins qui restent dans ces immeubles. Enfin, tout se passe relativement bien dans ce documentaire. Et en tout cas, c'est un documentaire de résistance, hein, puisque c'est un peu les noms à la mode en ce moment, hein, résistance.
Demain, donc, on le rappelle encore une fois, le Cinéma Diagonal propose à 20h la projection dans le cadre de plein écran du film La Chute de Oliver Hirschbiegel. La séance sera donc présentée par Frédéric Astruc, qui était avec nous tout à l'heure, maître de conférence en cinéma à l'UPB Montpellier 3. Vendredi à 7, l'association Ciné C'est Toi propose à 20h30 au cinéma Comodia la projection débat autour du film Il vento fa il suo giro de Giorgio Diretti.
Si. Et donc, je ne sais pas si j'ai précisé que c'était à 20h l'avant-première de Squat. En tout cas, voilà, c'est fait. À Agde, le 21, le cinéma Travelling propose à 18h la projection du film La Brindille d'Emmanuel Millet, suivi d'une rencontre avec la réalisatrice. Et la réalisatrice sera aussi avec son film à Frontignan, le même soir, mais à 21h cette fois-ci. Et du coup, ce sera l'occasion de la fête du 13e anniversaire du Cinémistral.
À Nîmes, samedi soir, le cinéma Sémaphore, plutôt l'après-midi, pardon, à 16h, vous propose la projection du film Le vilain petit canard de Gary Bardin, qui sera suivi d'une rencontre avec ce réalisateur russe. À Metz, le samedi également, le cinéma Le Taurus organise à 20h30 la projection débat autour du film de Nadine Labaki, Et maintenant, on va où ? Et le lendemain à 18h30, vous aurez droit à une lecture théâtralisée, La conférence des oiseaux par Jean-Claude Carrière, d'un conte soufi. Il sera accompagné de l'actrice Nahal Tajadod et du musicien Marc Loupuit.
Eh oui, t'as les noms propres les plus compliqués.
J'ai les meilleurs, je dis.
Le 23 octobre, c'est le Cinémutopia qui propose, c'est dès 9h45, c'est le petit-déj, suivi à 10h30 de la projection du film de Marie-Monique Robin, Notre poison quotidien, suivi d'une rencontre avec Frédéric Prat, qui est ingénieur agronome. Alors, Notre poison quotidien, eh bien, c'est ce film qui avait déjà été d'ailleurs diffusé par Arte. Il a été produit par Arte et qui est une enquête sur tout ce qu'on ingurgite comme saloperie. Et ça a peut-être du bon d'ailleurs, parce que le bisphénol A est maintenant, ou devrait en tout cas dans les prochains jours, être complètement interdit, retiré de la circulation en ce qui concerne les biberons. Et c'est un exemple qu'on trouve dans ce documentaire extrêmement pointu et bien fait, Notre poison quotidien, Marie-Monique Robin. Donc c'est à l'Utopia ce dimanche.
Le vilain petit canard de Gary Bardin sera également projeté au cinéma Nestor Burma dimanche à 16h. En version française et à 18h en version originale sous-titrée, également suivie d'une rencontre avec le réalisateur.
Et puis on termine avec Anime, le cinéma Sémaphore, qui propose à 20h30 la projection du film Ici on noie les Algériens de Yasmina Hadi, suivie d'une rencontre avec la réalisatrice. Et bien voilà, c'est ce qu'on pouvait dire un peu sur ce qui se passe autour de la région.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré bon Dieu ! Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou !
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Merci, Marine.
Merci à toi, merci à Frédéric Astruc qui est parti, on le remercie encore une fois.
Oui, c'est vrai qu'on l'a pas annoncé qu'il était parti, mais vous pouviez vous en douter puisqu'on ne l'entendait plus. La semaine prochaine, on retrouvera pareil sans doute des invités et puis des films dans Cinérama et des sons. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, au revoir.
Cinérama. Il n'y a que des combines, il n'y a pas de héros, rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs, rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saints, il n'y a pas de génie, rien que des combines et des contes de fées, ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.